Bien, bonsoir à tout le monde. J'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir M. Mohamedou. Vous savez, dans la vie, on a toujours des bonnes surprises qui peuvent arriver. Donc, il y a quelques mois, j'étais à un colloque, disons, sans être méchant, ordinaire de relations internationales. Et j'ai entendu ce qu'on appelle en bon français « keynote speech » de M. Mohamedou sur l'État islamique. Et j'ai eu une véritable commotion intellectuelle. Et donc, je me suis juré tout de suite de l'inviter à parler ici. Il a eu la gentillesse d'accepter cette invitation. Monsieur Mohamedou est d'origine mauritanienne. Il a fait des études en Europe, à Madrid, je crois. Vous avez un baccalauréat français passé à Madrid. Vous avez une carrière universitaire avec des diplômes français et aussi américains. Vous avez enseigné à Harvard. Vous avez été très brièvement, je crois, ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. Et depuis quelques années, vous êtes professeur de relations internationales à HEID de Genève. Alors, ça ne vous dit rien, mais c'est l'ancienne HEI, et Hautes Études Internationales, qui est un des établissements les plus prestigieux en relations internationales dans le monde, puisqu'elle avait été créée en pratique pour la Société des Nations durant l'entre-deux-guerres. Et ces dernières années, cette institution a pris une dimension quasi mondiale, voulant se placer au plus haut niveau des grandes institutions internationales en relations internationales. Et M. Mohamedou a travaillé, entre autres, sur le mouvement dit terroriste. Et il a publié un premier livre en 2007 sur Al-Qaïda, dans lequel il énonçait le risque de voir une fraction d'Al-Qaïda prendre un ton beaucoup plus radical et beaucoup plus violent que ne l'était Al-Qaïda à l'époque. Je peux donc dire, vous ne me contrarierez pas, que vous avez plus ou moins énoncé les possibilités d'émergence de l'État islamique 6 ans ou 7 ans avant. Donc, dans ce premier livre consacré à Al-Qaïda, vous avez essayé de montrer que, contrairement au discours soit philosophique les traitant de nihilistes, soit civilisationnel en le présentant comme une guerre de culture, vous essayez de montrer que Al-Qaïda avait un projet politique et était un mouvement fondamentalement politique. Alors, cette semaine, puisqu'il est sorti le 29 novembre, pardon, et que je n'ai pas encore l'occasion de le lire, vous venez de sortir un nouveau livre, cette fois-ci, sur l'État islamique. Donc, je ne sais pas ce qu'il contient, puisque je ne l'ai pas encore lu, mais je pense qu'il est la suite, la réponse et la continuation de votre livre de 2007, et je crois que c'est le sujet de votre conférence, et je vous cède la parole, cher ami.
Merci beaucoup, monsieur le professeur. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci pour votre présence. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Henri Lorenz pour son aimable invitation, qui m'honore grandement. Je suis ravi d'être ici parmi vous ce soir pour partager un certain nombre d'idées sur cette question de l'évolution, la transformation de la violence politique à cette fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Mais avant d'entamer mon propos, je tenais, comme je le disais, à souligner l'honneur qui m'est fait, étudiant, chercheur ici aux États-Unis ou ailleurs. J'ai eu le plaisir, comme beaucoup d'entre vous, je pense, de lire les ouvrages du professeur Lorenz et à mains égards, ceci a inspiré mon travail et je vous en suis reconnaissant. Le travail présenté ici, mesdames et messieurs, est effectivement, comme il a été mentionné, mais pour être un peu plus précis, à l'issue d'une trilogie sur la nature et sur les visages de la violence politique transnationale. Le terme transnational est important, j'y reviendrai à plusieurs fois. Je dirais tout de même, spécifiquement sur ce terme, qu'on l'utilise, que nous travaillons beaucoup sur cette thématique depuis un certain nombre d'années, mais qu'il me semble que le concept de ce que veut dire fondamentalement une dynamique transnationale dans les relations internationales, il nous manque encore une grande théorie de ceci. Nous avons des patterns que nous identifions, nous voyons des comportements, nous voyons une grammaire. Je vais l'esquisser dans ce que je peux observer, mais je crois que quelques 25 ans après l'émergence de ces acteurs qui sont éminemment transnationaux, ceux sur lesquels je vais m'apesantir, nous devrions déjà être un quart de siècle après en mesure d'avoir cette grande théorie, ou une, ou deux, ou trois, sur cette thématique, et je ne la vois pas encore. Je vois beaucoup de travail, disons, qui prend pour argent comptant le terme, mais qui ne le travaille pas de manière plus scientifique en ce sens. Donc ce travail est, comme je disais, à la clôture peut-être d'une trilogie entamée en 2004 en fait avec un ouvrage publié en français intitulé Contre-croisade et deux autres en anglais, Understanding Al-Qaïda en 2007 puis 2011 la deuxième version et A Theory of ISIS qui vient de sortir ce mois-ci. Un quatrième volet de cette potentielle tétralogie est en cours d'élaboration et sera, Inch'Allah, une sorte de prequel qui ira aux sources historiques de ces mouvements il y a un siècle en Arabie, se penchant notamment sur le mouvement des Ikhwan dans le Nejd al-Hijaz, à ne pas confondre bien sûr avec les Ikhwan al-Muslimin en Égypte, mais plutôt ces mouvements bédouins déjà militarisés, déjà transnationalisés, qui vont faire des allers-retours entre l'Arabie et le Levant à ce moment-là, et j'y vois quelques patterns intéressants que je voudrais observer plus en détail. Ce projet global donc, d'histoire sociopolitique ou sociale et politique interroge de façon critique l'historiographie de ces mouvements non étatiques transnationaux, et il invite une réflexion sur la nature de la violence qu'il projette. Cette réflexion, qui fait explicitement, et je tiens à le souligner tout de go, rupture avec les lecteurs dominantes, notamment dans les sens sociaux occidentaux, mais également orientaux, puisqu'elles sont influencées en ce sens, qui situe très largement ces mouvements dans des dimensions régionales et quasi exclusivement religieuses. Élevant et désindexant à dessein ces deux biais, les questions alternatives posées que je pose sont de nature universelle et métahistorique, au sens de l'utilisation de ce terme par Charles Tilly et son observation de ce qu'il a appelé les larges mouvements de l'histoire. Qu'est-ce que donc l'État islamique et auparavant Al-Qaïda? Que représentent ces deux mouvements conceptuellement et historiquement? Quel sens donner à la violence politique dont ils ont été et continuent à être les acteurs au cours du dernier quart de siècle? Quel sens est porté également cliniquement par cette activité et comment peut-on la lire dans les sciences sociales de manière plus large? Loin des approches exceptionnalisant l'actualité de ces groupes et des régions du monde dont ils proviennent, s'impose à mon sens plus pertinemment la triple notion de circulation historique, d'interconnexion spatiale et d'interdépendance des acteurs. Et ces trois éléments sont à mon sens le socle de cette violence, la circulation, l'interconnexion et les interdépendances. Une première somme d'observations procéderait donc de dynamiques esquissées au cours de ces trois dernières décennies, et un départ à partir de 1979 me semble somme toute assez logique derrière l'Afghanistan avant la guerre, première, seconde guerre d'Irak, deuxième guerre Iran, après la guerre de l'Iran-Irak, la crise du Golfe, et puis bien entendu avant le 11 septembre. Ces trois décennies marquent donc une période clé qui englobe notamment celle du télescopage, de la déshérence, des banques de colère et de violence qui résultent de la capacité de ces acteurs non étatiques à agir de façon conséquente. Le problème que j'observe, c'est que toute la discussion régionalisée, religiosée, je dirais, et géopolitisée de ce nouveau Moyen-Orient, entre guillemets, de la fin de Sykes-Picot, entre guillemets, et autres « end of the American Middle East », fin du Moyen-Orient américain, retour de la Russie, est lié ultimement à des catégories analytiques de plus en plus obsolètes. et qui montre voir en réalité l'acuité historique de cette autocapacitation de ces acteurs qui se joue de loin en loin désormais de manière beaucoup plus importante grammaticalement. Groupe armé, société civile, individus mondialisés, voici le langage qui est celui de ces deux groupes. Ces nouvelles forces vives qui desserrent et font exploser la dimension spatiale des relations internationales en les réorientant à l'écart de l'État. Ces forces consacrent la transnationalisation, donc grandissante, de vastes aires du monde. Au Levant, nous les observons, au Sahel, mais également en Amérique latine et en Asie, et partant donc, je vous soumets, la grammaire de ces relations internationales elles-mêmes. Ces qualités, certaines visibles, d'autres en gestation, sont avec nous, et on peut en faire l'hypothèse déjà, président désormais, à mon sens, aux destinées de ces relations internationales à venir, qui, au-delà de leur nature eurocentrique déjà connue, vivent aujourd'hui de manière plus problématique une forme de dissonance, voire peut-être même de schizophrénie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La posture déclamatoire, statocentrée, statodéfinie, statoréglementée, est partout contredite par la réappropriation du pouvoir par d'autres acteurs qui sont précisément l'opposé de ceci. Médias omniprésents, médias sociaux dominants, citoyens investigateurs, sociétés irrédentistes, marchés financiers hors de contrôle et bien entendu nos groupes armés ici à l'étude et leur inattendue velléité d'étatisation. Dawla al-Islamiyya, l'État islamique, et non pas Al-Qaïda, la base, j'y reviens. Dans un tel contexte, l'histoire accélérée de l'organisation de l'État islamique, c'est une organisation, ce n'est pas un État à l'évidence, a mis en exergue deux questions qu'il faut distinguer, à savoir premièrement l'origine et l'évolution de l'État islamique lui-même, dont la trajectoire s'inscrirait dans un parcours beaucoup plus vaste et entamé, et on a tendance beaucoup à l'oublier aujourd'hui, entamé par une autre organisation, Al-Qaïda. Deuxièmement, la question plus large qu'occupent ces deux acteurs ensemble et donc les groupes à venir, quelle que soit leur forme, j'y reviendrai, non étatiques dans les relations internationales en mutation incomplète depuis la fin de la guerre froide. Et en réalité, nous avons ce double mouvement. Vous avez l'histoire de ces groupes qui est la leur, ce micro-récit, si vous voulez, qui se joue selon les velléités d'étatisation de l'État islamique aujourd'hui, l'historique d'Al-Qaïda de Ben Laden. Mais autour de ceci, il y a cette espèce de transition qui n'en finit pas après guerre froide, après 11 septembre, après printemps arabe, et nous avons donc ces 30 ans dans lesquels s'inscrivent ces mouvements en même temps qu'ils sont en train de définir un processus ou un projet, non pas innovant, mais je dirais peut-être même révolutionnaire en ce sens-là. Si les deux questions donc sont liées, le premier micro-récit a trop souvent occulté les enseignements plus larges qu'il faut tirer et la trajectoire de ces deux groupes, parmi les plus importants dans l'histoire de la violence politique, on peut même dire clairement et cliniquement que l'État islamique est le groupe armé non étatique le plus puissant dans l'histoire. Et ces deux éléments souffrent, à mon sens, un déficit analytique et une absence de conceptualisation. C'est en mots, mesdames et messieurs, le cœur de mon propos, et je tiens à le donner tout de go ce soir. La sous-conceptualisation de l'État islamique est la fille de la sous-théorisation d'Al-Qaïda. Et ces deux déficits, se donnant la main d'une décennie l'autre, depuis 2001, sont le pendant du marketing réussi, médiatiquement et politiquement, d'une guerre contre le terrorisme qui préside encore invisiblement aux destinées d'une néo-pensée unique. À ne parler que terrorisme, entre guillemets, sécurité, radicalisme, extrémisme et autres néologismes tels le djihadisme, l'université a perdu de vue l'essentiel ici, à savoir l'analyse de l'histoire. L'élaboration de la conceptualisation clinique si centrale aux sciences sociales et simplement le sens de ceci. Dire donc la violence politique contemporaine, c'est désormais cerner l'enchâssement de questions évolutives, dont les hybridités, une qualité qui est peut-être pérenne désormais, dont les hybridités et les temporalités sont légion. Or, une pensée unique sécuritaire, je disais, est bel et bien trop facilement venue enserrer la question du terrorisme. La discussion de ce qu'il recèle, d'où il provient et ce qu'il traduit a été simplifiée. Les contradictions de ce storytelling trop huilé et en apparence simplement désidéologisé abondent. La terminologie est imprécise, tel acte est qualifié de terrorisme, un autre ne l'est pas. Les voitures béliers à travers l'Europe sont considérées à juste titre comme du terrorisme. Une voiture bélier contre la mosquée Finsbury à Londres est le terme qui est utilisé pendant 12 heures par CNN et les grands médias est une collision. Les motivations sont excessivement simplifiées, essentialisées autour de la religion, même lorsque celle-ci est à l'examen secondaire ou superficiellement théâtralisée, et le contexte est amputé de ses soubassements historiques, lus toujours et encore dans une perspective confinée aux épisodes les plus récents. Arc-bouté de la sorte sur les questions de définition, otage d'une subjectivité qui préside en la matière du terrorisme, nous le savons, de religion, seul le terrorisme islamique, souvent, est visible, et de nouvelles vagues, entre guillemets, chaque nouvel épisode serait indicateur d'un profil, lone wolf, loup solitaire ou autre. Nous avons volontairement appauvri notre compréhension d'un des phénomènes sociopolitiques les plus importants de notre époque. À penser le terrorisme au singulier, sous le prisme d'un réductio ad islamum et d'une incessante nouveauté, de telles approches ont privé État et société d'outils plus intelligents pour faire sens des nuances nécessaires, mais elles ont surtout assis un anhistoricisme fort problématique. Forme de violence politique qui n'a pas la légitimité que confère la guerre, le terrorisme est aujourd'hui avant tout révélateur d'un moment historique, des mutations de la contestation. L'essor du terrorisme contemporain a lieu sur l'arrière-plan d'une modernisation rapide et mondialisée. Et il est en ce sens à la fois le symbole et l'expression d'une aliénation, d'un déracinement pour de nombreux pans de la société moderne, et pas simplement au Moyen-Orient. Dans un tel contexte, de quoi, à nouveau, l'État islamique est-il donc le nom ? Au lieu de s'enfermer dans ce récit réductionniste désormais trop familier, un narratif appauvrissant notre capacité à conceptualiser la nature de ces formes de violence contemporaines, il faudrait, à mon sens, mettre à jour nos matrices sur trois biais que je vous propose. La postmodernité, la postmondialisation et, fondamentalement, le postcolonialisme, bien entendu, au lieu du narratif sécuritaire. Le second propos central de la présente réflexion est alors le suivant. Les sciences sociales, généralement, et les relations internationales plus spécifiquement, ont pour l'heure été incapables de cerner la nature des transformations systémiques introduites par ces deux groupes liés, mais croisés, et qui sont différents que sont Al-Qaïda et l'État islamique. Ces approches sécuritaires, pour ne pas dire policières, qui sont informées de façon culturaliste, pour ne pas dire orientaliste, et qui sont distillées sur un mode médiatique, pour ne pas dire théâtral. Ces analyses dénotent, je disais, un déficit conceptuel. Revenons en arrière. Phénomène éminemment moderne, qui naît au XIXe siècle avec les nihilistes russes, dans le contexte de la révolution industrielle, l'urbanisation accélérée et l'expansion du projet colonial. Trois dimensions fondamentales. Le terrorisme connaît aujourd'hui un regain d'acuité, à mon sens, parce que précisément des transformations proches de ce contexte fondateur se rejouent aujourd'hui. Révolution industrielle, colonialisme, modernisation, révolution technologique, néocolonisation et postmodernité. Plus d'un quart de siècle après la formation d'Al-Qaïda, plus de 15 ans après son fait d'armes le plus spectaculaire à New York et Washington, plus d'une décennie après sa dernière grande opération à Londres en 2005, et alors que l'État islamique l'a fait apparaître vieillotte et dépassée, et lui-même est en phase de disparaître, nous sommes entrés désormais résolument dans un nouvel âge terroriste marqué, non pas par la saga à proprement parler d'Al-Qaïda et de l'État islamique, mais de leur impact grammatical. Et c'est ce qui compte le plus à mon sens. À nouveau, le micro-récit de Abou ceci ou Abou cela, le sécuritaire, le policier, ces dimensions sont ce qu'elles sont. Mais au niveau des sciences sociales, nous avons à observer ce qui est plus important et ce qui est l'impact de ces groupes, à savoir trois choses. La fluidité des réseaux, la déterritorialisation et la capacitation tactique amplifiée par des nouvelles technologies mondialisées. Ces générations, ces acteurs sont au cœur de ceci. Alors, récurrence du terrorisme, mutation du terrorisme, la cause semble entendue. Mais elle ne l'est précisément pas, puisque la lecture ambiante est assourdissante également, et seule celle de la thanatologie et de l'ancrage pseudo-religieux de ces groupes. La contradiction est la suivante. Pour comprendre la fraction armée rouge, bande à Bader, ou les brigades rouges, il faudrait, nous dit-on, se pencher sur les conditions sociétales de l'Allemagne et l'Italie de l'après-guerre et du malaise ambiant dans ces sociétés durant les années 70. Et ceci est tout à fait logique et riche de sens. Pour comprendre Al-Qaïda et l'État islamique, nous sommes invités à lire le Coran. C'est tout le problème. Au-delà de l'exceptionnalisme culturel ou religieux, qui efface donc le contexte structurel, social, économique, politique de l'analyse de ce tour de passe-passe qui est en réalité simplement raciste, chaque nouvelle vague est vécue dans l'oubli, sans que les questions de fond soient posées, et donc traitées cumulativement, et avec modestie, Des experts autoproclamés font que le citoyen se perd dans des constats paniques, d'instantanéité indifférenciée, et se prête à penser, c'est une commodité, sécuritaire, culturaliste, désinforme également des discours officiels, inévitablement, qui sont sourds à une réalité empirique changeante et qui parlent invariablement de désespoir, d'analphabétisme, de lavage de cerveau par tel ou tel prédicateur gourouesque et de pauvreté comme facteur causal, alors même qu'historiquement le phénomène terroriste est souvent le fait de bourgeois et que sa logique stratégique est, comme nous l'a démontré Robert Pape à l'Université de Chicago avec son travail, sa logique est stratégique et politique. Vidé de son contexte, ainsi, le terrorisme peut être décliné au singulier, la menace terroriste, alors qu'il n'existe que sous forme plurielle. Comprendre l'État islamique, c'est donc examiner la profondeur de ce contexte historique, puis consigner un arc évolutif spécifique à l'État islamique, bien entendu, il faut contextualiser et aller dans les différences avec Al-Qaïda. Plusieurs années donc, alors que ces deux groupes sont devenus aujourd'hui la principale menace à la paix et à la sécurité internationale, pour reprendre la phraséologie du Conseil de sécurité, nous sommes encore sous le coup de l'incertitude analytique, voire la confusion qui persiste. Comment en sommes-nous arrivés ici? À mon sens, deux facteurs ont facilité cette imprécision. D'une part, l'analyse de ces groupes n'a pas été au départ installée dans un canevas scientifique, dès le départ, mais principalement a été politique, médiatique, dominée par les policy makers, les preneurs de décision, les politiques et les journalistes opérant dans le cadre concurrentiel de la nouveauté choquante, de l'explication simplifiée, stéréotypée, qui prime sur l'analyse. Tôt définis aux États-Unis, les termes de cette dynamique ont été repris en cœur mondialement, au nord comme au sud. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'une dynamique occidentale. Les mêmes propos, la même phraséologie est reprise dans les grands médias du sud, en Égypte ou ailleurs. Les termes convenus de ceci ont été ainsi mis dans une logique de récit. Une histoire qui serait racontée par des raconteurs qui en maîtriseraient les épisodes et les développements, là où en réalité l'incertitude et la nouveauté dominent, c'est-à-dire plus en avant de la réification d'acteurs qui sont, eux, changeants. Vous voyez comment l'État islamique change Al-Qaïda, à partir de certitudes toujours statiques et fondamentalement fort peu vérifiables. D'autre part, l'analyse a été dominée par une lecture émotionnelle, bien entendu, puisqu'il s'agit de terrorisme, puisqu'il s'agit de tuerie, et non pas cliniquement scientifique, avec cette distance qui sied aux chercheurs. Peur et haine de ces groupes terroristes poussent ainsi vers une analyse qui chercherait précisément, à cause du biais émotionnel, toujours à fermer le récit, closing the narrative, le faire aboutir à une conclusion qui serait bien entendu idéalement a happy end. Ces deux lignes forces de la non-analyse, la politisation et l'émotionnalisme, ont été puissantes, comme elles déterminent aujourd'hui encore comment le grand public comprend ou ne comprend pas l'animal Al-Qaïda, mais aussi Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Boko Haram, les Shebab, etc. Ces approches ont imprégné les sciences sociales d'une lecture qui en dit long sur notre époque, mesdames et messieurs, et sur son impatience avec la complexité que l'on rencontre à l'étude et non pas simplement l'observation d'organisations terroristes, elles le sont, transnationales, innovantes. Doit-on alors chercher la clé de l'énigme de cet Al-Qaïda qui enfantera l'État islamique dans l'expérience cumulative des mouvements islamistes du XXe siècle, ou plutôt, comme je le pense, dans la coïncidence historique du groupe originel de Ben Laden avec l'avènement de la mondialisation comme mouvement hybride? Au-delà d'Al-Qaïda hier et l'État islamique aujourd'hui, pointent tous deux du doigt une nécessaire relecture de la conceptualisation des relations internationales face à une pratique de la violence objectivement nouvelle, à savoir, comme nous l'avons noté, la délocalisation d'une projection d'une violence transnationalisée. Bien, mais une fois que nous avons dit qu'il y a une nouveauté, il faut être en mesure, peut-être, d'identifier quelques-unes de ses caractéristiques. Alors, où se trouveraient ces éléments de nouveauté? À mon sens, depuis les nihilistes russes, et j'insiste à nouveau sur cette date de naissance du terrorisme contemporain fin du XIXe siècle, les anarchistes ouest-européens de la fin du XIXe siècle, le terrorisme que le monde a connu à travers ses différentes incarnations durant ces 150 années avait principalement deux caractéristiques fondamentales. Les suivantes. La première, c'est que le terrorisme a toujours eu comme caractéristique, pendant de très longues années, l'élément qui est qu'il constitue un terrain d'activité essentiellement centré sur ou venant d'une aire territoriale circonscrite, le local. Deuxièmement, une utilisation de la violence qui paradoxalement dépendait ultimement plus de l'initiative de l'autorité étatique combattue que celle du groupe terroriste insurrectionniste lui-même. La récurrence de ces deux aspects, la contiguïté territoriale et la réactivité, me permettent de poser l'axiome suivant. Jusqu'à Al-Qaïda, tout terrorisme était local. étudiants russes visant le tsar, groupes juifs attaquant l'occupant britannique en Palestine, nationalistes algériens résistant à l'armée coloniale française, jeunesse révolutionnaire italienne ou allemande menaçant leurs sociétés respectives, et militants chrétiens, musulmans ou juifs ciblant ceux qu'ils considèrent infidèles ou dangereux. Il y a là une relation indélébile, caractéristique essentiellement des terrorismes des 19e et 20e siècles, qui s'illustre de façon chronique jusqu'à Al-Qaïda. C'est en ce sens que on doit certainement historiciser l'histoire du terrorisme. Invariablement, les groupes sont liés à leur locus originel. Certes, il y a une forme de territorialisation embryonique, vous direz, durant notamment les années 70, bien entendu, mais celle-ci ne remet pas en cause cet axiome. Ainsi, si des Palestiniens prennent en otage des Israéliens aux Jeux Olympiques à Munich en 1972, c'est pour envoyer un message à propos de l'occupation des territoires palestiniens. Et si des révolutionnaires allemands s'associent au détournement d'un avion jusqu'en Somalie en 1977, c'est toujours pour faire un commentaire sur le malaise de leur société un quart de siècle après l'Holocauste. C'est tout autant par rébellion en ce sens, et ce qui importait jusqu'à ce moment-là pour le terroriste dans ce mode, c'est l'impact sur son terrain de départ. La naissance le 11 août 1988 du premier groupe armé transnational non étatique, Al-Qaïda, altère fondamentalement cette séquence et nous fait entrer de plein pied dans le terrorisme du XXIe siècle. Nous assistons alors à un changement de paradigme et l'action initiale d'Al-Qaïda, telle qu'elle émerge, constitue une mise à jour consciente du recours à la violence politique. Al-Qaïda annonce elle-même qu'elle veut être une base militaire. Al-Qaïda al-Askariya est le premier nom du groupe, la base militaire. L'innovation passant par la projection transnationale du mode opératoire. Le groupe introduit ainsi une formulation explicite de ce projet de déplacement physique et conceptuel. « Min al-adul qarib ila al-adul ba'id », ils écrivent dans leur texte, « du proche ennemi à l'ennemi lointain ». L'ennemi proche étant les régimes arabes, l'ennemi lointain, les gouvernements occidentaux, est-il expliqué dans ses premiers textes. Al-Qaïda traverse ensuite ses 25 années suivantes en évoluant sur trois périodes que l'on peut rapidement identifier. L'émergence graduelle durant les années 90, personne n'y prête attention. Deuxièmement, la centralité durant les années 2000, sans à nouveau qu'on arrive à fixer sa létalité et sa transformation à venir. Et troisièmement, alors même qu'elle demeure agile, et troisièmement, cette évanescence qui donne naissance d'abord aux franchises et puis qui va s'installer comme mode d'influence sur le long, d'abord avec l'État islamique et puis sur ce terrorisme qui est en train de naître, sur lequel je conclurai dans un moment. En d'autres termes, Oussama Ben Laden aurait légué au monde non pas une organisation, Al-Qaïda, mais un mouvement, Al-Qaïdisme. La caractéristique d'Al-Qaïda, à mon sens, si l'on doit en retenir une, c'est non pas sa longévité ou sa résistance, mais son adaptabilité et sa capacité d'innovation. Des caractéristiques de notre époque, précisément. Le récit d'une Al-Qaïda qui serait apocalypto-thanatopolitique, comme on l'entend tous les jours, aurait été en fait confirmé par une inflexibilité stratégique de sa part. Une forme d'approche obtuse à ce qu'elle veut faire. Or, c'est précisément l'inverse qui se joue par la suite. Avec la décentralisation des opérations et la capacitation des franchises sur un mode Sun Tzu, sur un mode très, très pratique, très pragmatique, Ben Laden l'a toujours été en ce sens-là. Le résultat de cette évolution qui fait le lit de l'État islamique, effectivement, se décline déjà à partir de 2007, et on pouvait déjà à ce moment-là en faire la projection comme je l'avais fait effectivement dans Understanding Al-Qaïda, sous le vocable de l'introduction de ce qu'on peut voir émerger comme la privatisation du terrorisme, la privatisation de ce mode. Mal conceptualisés, je disais tout à l'heure, sous le vocable loup solitaire, ils ne le sont précisément jamais, le phénomène est plus précisément ce qu'on peut appeler la démocratisation du terrorisme, avec cinq caractéristiques. L'expansion sociétale du recours au terrorisme, et là, on revient effectivement au XIXe siècle, l'autoradicalisation sur le mode héroïco-punitif contre la société. Troisièmement, l'usage actif et innovateur des technologies de l'information qui fait que le terroriste a toujours un train d'avant. Quatrièmement, la symbiose entre la violence physique et la violence symbolique. Et cette chorégraphie, cette plastique, cette imagerie est très présente dans le terrorisme de l'État islamique et à mon sens encore plus dans celui à venir. Et finalement, ce déplacement entre un champ de bataille, comme je disais, et un espace de bataille qui fonctionne sur l'autocapacitation. Nous voyons un certain nombre de ces exemples durant les années 2000 qui me permettent de mentionner ceci. Je les passerai rapidement. David Headley à Chicago en novembre 2008, Nidal Malik Hassan à Fort Hood, à Texas en 2009, Omar Farouk à Amsterdam en 2009, Faisal Shahzad à New York en 2010, Anders Breivik Alors, que ce soit de l'anti-islamie, que ce soit plutôt de l'islamophobie ou de l'occidentalophobie, le mode est le même. Anders Breivik, Mohamed Merah en France en mars 2012, les frères Tsarnaev à Boston en avril 2013 et bien entendu les frères Kouachi en France en janvier 2014, qui précèdent la vague de l'État islamique qui suivra. Les difficultés à lire donc Al-Qaïda et l'État islamique sont à cet égard particulièrement paradoxales et révélatrices. Selon cette première lecture dominante durant les années 2000, il faudrait ainsi, pour comprendre l'EI, je dirais, non pas se pencher sur les modes de ces acteurs, mais sur la culture arabo-islamique. Il y a un collège d'experts qui décode les rythmiques des chatrooms islamistes, se met en place aux États-Unis, oubliant à mon sens que ce n'est pas seulement ce micro-récit, comme je disais, mais la nature même impersonnelle du commando de Hambourg en 2001 qui est la réelle nouveauté. C'est cette matrice que Ben Laden a introduite en corrélation avec son époque, et ce casting régionalisé, en fait, ne fait pas du tout l'affaire. On le reprend en France lorsqu'il s'agira de parler Sahel, avec les Mokhtar Belmokhtar, Abdelmalek Droukdel, Abdelhamid Abou Zeid, et une telle far-westisation de la scène d'une violence qui est née de conflits spécifiques au Levant ou au Sahel est en fait de plus en plus transposée aux banlieues occidentales, notamment en France, où tout jeune musulman est désormais traité comme une potentielle menace intérieure, avec tous les problèmes que ceci soulève pour des sociétés en ce sens. En vérité, mesdames et messieurs, les sciences sociales ont raté l'occasion de développer des outils analytiques pour comprendre la signification historique de ce qui n'est pas n'importe quelle violence. L'observation de celle-ci révèle aujourd'hui que la spécificité d'Al-Qaïda puis de l'État islamique résulte de la coïncidence entre, d'une part, un projet non accidentel pensé de la part de militants islamistes de projeter à partir de la fin des années 80 le recours à la violence politique mondialement et d'autre part la matérialisation durant les années 90 des conditions et des paradigmes de la mondialisation qui leur permettent précisément de faire ceci. En d'autres termes, Al-Qaïda n'aurait jamais pu naître en 1972 ou en 1962, mais en 1992, oui. Comment alors, plus précisément, décoder maintenant cette équation de l'EI, au-delà de la matrice de la fitna, qui concerne des dynamiques transsociales, du legs du fait colonial qui projette ces dynamiques, ou de la quête de l'authenticité, al-asala, qui passe par des dynamiques de disqualification, al-takfir, tout puits de sens qu'elles peuvent être. Une considération excessivement de ces logiques intra-islamistes nous fait perdre de vue l'essentiel, à savoir la mutation de la typologie même et du contexte de conflit mondial de l'Est-Ouest, du Nord-Sud, au cours du siècle, demi-siècle écoulé. Le monde musulman n'est pas un îlot où les conflits se joueraient sans être affectés par l'évolution du contexte global. Quant à la typologie du conflit, les discours sécuritaires ambiants, au nord comme au sud, parlent d'ennemis qui auraient changé. La plupart des documents de politique sécuritaire américaine parlent toujours de cette « changing face of the enemy », manquant voir que c'est l'ensemble de l'architecture sécuritaire mondiale, extraterritorialité, drones, sociétés militaires privées, qui a subi une transformation et qui englobe, d'une part, notamment l'affaiblissement de la matrice étatique, encore et toujours, et qui irait même jusqu'à la désétatisation dans certaines parties du monde et la prolifération de ces espaces non gouvernés, d'autre part, par la capacitation de ces acteurs. De même, il importe d'interroger, à mon sens, la terminologie moderne de djihadiste, qui est assise plus journalistiquement que scientifiquement, et qui aboutit à perpétuer un exceptionnalisme de ces mouvements et leur aspect atomisé. Ces lectures ont empêché de voir que le mode d'action qui a émergé est en fait en train d'introduire un nouveau type de terrorisme. L'État islamique est donc, pour tirer déjà certaines conclusions, avant tout, à mon sens, deux choses. La militarisation de l'islamisme. Il y a islamisme, mais la caractéristique principale, je ne la vois pas dans le fait religieux, mais plutôt dans la militarisation de ce qui se passe, et là, c'est le legs de ce qu'avait entamé Al-Qaïda. Deuxièmement, la transnationalisation du terrorisme. Et on peut déjà voir aussi maintenant, puisque nous sommes après tout ce qui s'est passé cet été avec l'État islamique, nous pouvons voir déjà que le dépassement d'Al-Qaïda vers une violence politique postmoderne risque d'être le legs de cet État islamique. Revenons un petit peu sur ce groupe lui-même, fondé en juin 2014, mais ayant une filiation remontant en 2005 en tant que groupe affilié à Al-Qaïda. Alors c'est important comme référence. Vous pouvez soit lire l'État islamique à partir de 2005 en tant que franchise qui prend son envol, soit à partir de 2013 en tant que nouvelle forte organisation sous Al-Zarqawi et plus récemment bien sûr sous Baghdadi. L'exceptionnalisme de l'État islamique, et donc, lorsqu'on observe ceci, est né des actions de plus indépendantes des lieutenants de Ben Laden, précisément, Azraqawi, avant d'être successivement mise en orbite par des militants islamistes irakiens aguerris qui ont recalibré l'action du groupe localement, puis se sont émancipés de la tutelle de la matrice originelle. Et là, on voit ce que l'État islamique a déjà introduit comme changement qualitatif par rapport à Al-Qaïda. C'est ce que j'appellerais l'indigénisation du transnationalisme. Et c'est un premier paradoxe de ce mi-groupe. C'est-à-dire que, alors même qu'il bénéficie d'un État maximal de transnationalisme par rapport à Al-Qaïda, il fait ce va-et-vient. Il va porter cette violence, comme l'a fait Al-Qaïda, mais la rapatrie au Levant et cherche précisément à fonder quoi ? Un État, et non pas un groupe ou une base. Et c'est tout le paradoxe de cet État islamique. Son ultra-violence, son utilisation efficace des moyens de communication, la jeunesse de sa soldatesque ont constitué les soubassements de son avancée entre 2013 et 2017, auxquels se rajoute bien entendu la violence des milices chiites de Nouri el-Maliki et les concurrents non-islamistes, armée syrienne libre, Jabhat al-Nusra, Ahrar al-Sham et autres opposants au régime de Bachar al-Assad. Mais la prise de Mossoul le 11 juin 2014 représente la culmination de ce qui a été une campagne militaire, une blitzkrieg en fait, entamée dès l'hiver 2013 en Irak et en Syrie, comme elle annonce immédiatement le prélude à une phase stratégique dans laquelle l'État islamique fait quelque chose d'assez étonnant tout de même, alors même qu'ils viennent de prendre contrôle de ces villes, juin 2014. Tout ceci est visible dans une vidéo qu'ils ont sortie en juin 2015, donc un an après, dans laquelle on voit presque heure par heure l'avancée sur Mossoul. On voit la nature, l'ampleur de cette victoire militaire. 32 000 soldats irakiens ont pris la fuite. Et tout ceci amènerait à penser que la priorité va être essentiellement le local, la gestion. Or, dès septembre 2014, ils annoncent et lancent cette espèce de campagne médiatique qu'on verra par la suite se développer et qui, entre 2015 et 2016, nous donne quelques 60 attentats que j'ai reportériés dans l'ouvrage qui, ont, pour la grande majorité, se passent précisément à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis et ailleurs. La matérialisation de l'État islamique est donc une indication d'une transformation en cours des relations internationales. Je reviens en clôture à mon propos. Non pas une aberration au milieu d'un ordre international qui serait simplement perturbé ou simplement sujet à la mobilisation de la puissance coercitive américaine, comme on l'entend régulièrement dans les discours conspirationnistes au Moyen-Orient. Cette entité, non, à la suite d'Al-Qaïda, est un élément parmi d'autres, révélateur d'un changement en cours. On parle de forces déstabilisatrices, entre guillemets, de menaces qu'il faudrait détruire pour revenir à la normalité d'un système en ordre. Vœux pieux, chimère anachronique, le monde ne pouvait déjà plus être le même au lendemain de 50 ans de bipolarité en 1989, le monde ne pouvait certainement plus être le même après le 11 septembre. La question n'est donc pas comportementale, le I en tant qu'identité, mais stratégique, le I en tant que mode opératoire. Dans War, Religion and Empire, le politologue Andrew Phillips avance l'idée que les ordres internationaux sont détruits à la suite de crises de légitimation, crises illustrées, écrit-il, par la désintégration des imaginaires sociaux et l'apparition d'innovations militaires perturbatrices. Ici réside précisément, j'ajoute, toute l'importance de l'État islamique en tant que révélateur de changements et non pas simplement producteur de perturbations. Au cœur de cette grammaire changeante des relations internationales émerge la question de la chose étatique et de son contre-champ non étatique. Ces entités et agents qui se multiplient de loin en loin, occupant tour à tour territoire ou espace, le tout de façon fluide. Et cette hybridité intrinsèque, territorialité et virtualité, poursuite du local et du transnational, est à fois la force et la faiblesse de l'État islamique. En définitive, l'extrémisme d'Al-Qaïda a constitué, avant le I déjà, une réorientation stratégique de sa violence politique contemporaine qui a dû sa nature fondamentale au vecteur de cette mondialisation. Al-Qaïda fut plus l'enfant de la mondialisation que de l'islamisme. Elle a été une organisation postcoloniale, postmoderne. Là où les groupes précédents avaient cherché à détruire l'ordre, les nihilistes, capter la fonction étatique, les mouvements de libération nationaux, l'usurper, les révolutionnaires des années 70, elle a cherché à transcender l'État moyen-oriental, le rendant obsolète dans son projet de direction politique et lui substituant la primauté du mode martial. Son discours fut non pas « l'État c'est moi », mais bien plus « la guerre c'est moi ». Une telle autocapacitation et un tel déplacement étaient modernes, mais ils recélèrent tout autant paradoxalement les clés et les limites de l'Al-Qaïda, qui créa elle-même les conditions de sa disparition, hybridation et évanescence, en invitant les franchises à prendre leur envol. La plus mésestimée des conséquences des actions des nouveaux entrepreneurs de violence qu'elle a générées, tel l'État islamique est celle de la continuité de la question postcoloniale, suivant laquelle, notamment au Moyen-Orient, des processus inaboutis de formation d'État depuis un siècle, une conflictualité pérenne depuis les vraies fausses indépendances et un interventionnisme continu de Suez 56 à Benghazi 2011, en passant par Bagdad 2003, se sont donné la main synchroniquement pour maintenir les conditions selon lesquelles des frustrations accumulées et renouvelées ont trop facilement trouvé une expression dans cette violence et ce terrorisme. Les effets retours du déversement de cette histoire inachevée s'expriment aujourd'hui à la fois régionalement, mais également transnationalement, liant organiquement Mossoul et Washington, Raqqa et Paris. Par un retour de bâton somme toute logique, le reliquat colonial s'est désormais invité au sein même des sociétés occidentales concernées par cet épisode, notamment la France et la Grande-Bretagne, mais également les États-Unis dans le cadre de leur projection impériale depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. À cette insertion sont venues s'ajouter les inégalités et l'injustice vécues et perçues par les populations issues de la fracture coloniale. Si cette question post-coloniale, mesdames et messieurs, inconvenante et inaudible, mais centrale, cachée, comme le propos du film éponyme de Michael Haneke, est demeurée interstitielle, bordée d'amnésie autoproduite, le basculement post-Al-Qaïda opéré au début des années 2010 a révélé l'importance qui doit être attribuée à une seconde dimension, à savoir le post-modernisme qu'une entité telle l'État islamique exprime désormais mondialement. L'État islamique sera de moins en moins islamique et il sera de moins en moins État. De fait, et c'est peut-être moins le projet d'étatisation de l'EI qui importera sur le long, mais plus l'impulsion donnée à cette contestation hybride difficile à lire aujourd'hui, syncrétisme mi-identitaire, mi-socio-économique, qui s'exprime principalement au sein des métropoles du Nord, avec mimétiquement, en arrière-fond, des oripeaux religieux qui ne sont que cela, à l'image d'un Hamidi Koulibaly qui accroche dans sa chambre un drapeau de l'État islamique, ou Omar Mateen qui déclare à l'opératrice de 911 à Orlando qu'il est, je cite, « un soldat du califat sans réellement forcément l'être ». Le drapeau de l'EI sera ainsi à terme plus important que l'État islamique, en un sens. Un symbole de rébellion extrême, un vecteur de violence et un épouvantail sanglant dans la cité postmoderne. Au final, mesdames et messieurs, les circulations des contre-interrogations de cette violence émergente décuplent l'acuité des conséquences de la réponse étatique. Le terrorisme ne se réduit pas à un face-à-face entre autorité et terroriste. Il s'est répandu dans la vie de tous et déborde sur d'autres thématiques, telles la question migratoire et celle des inégalités sociales et politiques. À la faveur d'actes de portée mondiale, de médiatisation extrême, les questions d'efficacité et de résultats ont de façon stérilisante pris le dessus, fermant la porte au débat sur la sécuritisation qui génère une demande autoritariste, rationalisée par la malléabilité de l'argument de sale guerre, restituer le substrat postcolonial évanescent, insérer l'émergence du transnational postmoderne et interroger les effets sociétaux diffus du tout sécuritaire sont parmi les projets qui peuvent concourir modestement à ensemencer un répertoire de significations plus riches des trajectoires de désintégration et de désintermédiation de la violence contemporaine au-delà des histoires et des contre-histoires d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Je vous remercie.
Merci, cher ami. Il y a une grande habitude linguistique ces dernières années qui était dans le style de quoi X est le nom de, et on pourrait multiplier, j'ai même moi-même utilisé ça comme au moins figure rhétorique. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'Al-Qaïda et l'État islamique sont justement de l'ordre de l'indicible. On ne peut pas y mettre un nom. Et c'est en cela qu'ils sont indicibles que se heurtent nos analyses et sur notre réflexion. Alors pourquoi sont-ils indicibles? Parce que, comment dirais-je, ils sont le retour ou l'affirmation de choses que l'on ne veut pas voir aujourd'hui. Si je vous suis bien en tout cas. Toute l'évolution contemporaine, disons d'après 1945, et un Américain a montré à force statistique que ça marchait, il y avait une diminution globale de la violence année et par année, aussi bien dans les sociétés qu'on pourrait appeler métropolitaines qu'au niveau mondial. Et en effet, dès qu'on le recherche, on voit que le niveau de violence à Paris, à New York ou ailleurs diminue tendanciellement sur plusieurs décennies, au point que les actions d'acteurs historiques d'il y a quelques décennies, disons des années 40 ou 50, nous paraissent largement incompréhensibles aujourd'hui parce que leurs codes moraux ne sont pas les nôtres. Et en ce sens-là, j'avais essayé de montrer dans d'autres essais qu'on était passé de l'âge des combattants à l'âge des victimes et que l'une des nécessités de passer sur la centralité de la victime était de cesser de vouloir comprendre l'action des combattants. Et en vous lisant, je retrouvais des termes qui étaient largement appliqués à la période de ce que Hobsbawm avait appelé jadis l'âge des extrêmes. C'est-à-dire, par exemple, vous utilisez le terme dans votre premier précédent livre, pas dans celui-là, puisque je n'ai pas encore eu le temps de le lire, le moindre mal. L'action terroriste se justifie sur la notion de moindre mal. Le moindre mal, c'est je sais que je commets un mal, mais ce que je fais permet d'éviter un mal plus grand. Exemple total, absolu, Hiroshima est un moindre mal. Parce qu'en tuant 80 000 personnes, je mets fin à une guerre qui tue plusieurs dizaines de milliers de personnes par jour. Ça, c'est la théorie du moindre mal. Et puis, le second point que vous utilisez aussi dans votre livre, c'est la notion d'ultime recours. Le terrorisme est considéré comme un ultime recours parce qu'il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, pour les gens qui l'utilisent. Et cet ultime recours m'a toujours frappé comme problème. Quand je travaillais jadis sur le terrorisme, j'ai fait un essai sur le terrorisme il y a quelques années, parce que la Déclaration des droits de l'homme française et la Déclaration américaine des droits de l'homme passaient le droit à la révolte comme un droit fondamental. Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle d'après 1945, n'arrivait plus à la caler, puisqu'elle est marquée dans le préambule de la Déclaration universelle comme un ultime recours, mais elle n'est plus dans les articles. Et quand il y a l'ultime recours, elle n'est jamais définie. Et donc l'action terroriste se construit souvent sur ce jeu du moindre mal et de l'ultime recours, qui est justement propre à l'âge des extrêmes et qui n'est plus dans l'âge des victimes. Ce qui fait que ce que représente le 11 septembre et ensuite ce qu'il suit, c'est une éruption d'une violence que l'on ne saurait voir. Parce qu'elle est devenue au sens propre insupportable. Mais en même temps, l'acteur qui produit la violence l'esthétise. Ce qui fait que l'on a, par ailleurs, dans le terrorisme, dans la propagande de l'État islamique, en tout cas moins chez Al-Qaïda, l'usage de la cruauté. Ce qui était la nouveauté, me semble-t-il, à moins que je me trompe, c'est l'utilisation systématique de la cruauté. Quand vous égorgez quelqu'un et que vous montrez ça sur une vidéo, c'est pas parce que vous tuez, vous égorgez, vous faites acte de cruauté. Et c'est bien parce que c'est un acte de cruauté que ça devient insupportable, indicible. Donc, il y a ce point. Alors, évidemment, peut-être contestation des historiens, mais vous savez, les historiens sont pénibles. Ils vous diront toujours qu'il y a quelque chose qui avait précédé, qui était déjà comme ça. Ils sont casse-pieds. Hein. Bon, il faut les excuser. Les premiers qui étaient transnationaux, c'était une certaine tendance de l'anti-impérialisme. Dans les années 60, ça a été un échec magistral. Hein. Le premier transnational avant Ben Laden, c'était Che Guevara. Et Che Guevara avait théorisé Enfin, je vais théoriser. Régis Debray m'a dit que c'était lui qui l'avait théorisé. La théorie du Foucault. Et je crois qu'entre Edgar et Dal Foucault, c'est le même mot. Et que, en fait, ce que Ben Laden a fait, c'est de prendre au sérieux Che Guevara et éventuellement Régis Debray. De ce point de vue, comme il a pris au sérieux, ça a été efficace. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y avait un foyer de tension, on y allait en créant à nouveau pour disperser les forces de l'ennemi, le fatiguer, l'user, etc. C'est pour ça que je disais, de façon provocative, que Ben Laden était le petit-fils de Che Guevara, mais que la barbe avait changé. Sa barbe avait changé parce que ce qui différencie l'anti-impérialisme des années 60, qui est déjà un mouvement transnational en partie, même si je reconnais bien avec vous qu'il est fondamentalement dans un cadre régional, c'est qu'il se construit sur l'universel. C'est la tricontinentale, on est des peuples de couleur, on a le fusil à la main, vous connaissez les images, et ainsi de suite, et on va à Cuba boire du Cuba Libre, et ainsi de suite. Ce qui se passe avec Al-Qaïda, c'est que vous avez un impérialisme réduit au monde musulman, comme espace d'audience. Politique. On n'est plus dans l'universel, on est dans un espace, mais du coup on se donne, et vous le montrez très bien dans votre livre, un objectif qui est la conquête du monde musulman. Puisque on réduit ce monde, on peut chasser les autres de ce monde pour se le prendre, en se donnant la légitimité de la lutte anti-impérialiste. Donc ce mouvement est indicible parce qu'il fait ressurgir ce qui est interdit, c'est-à-dire la guerre. Il vous le dit, ce sont des instruments de guerre. Il fait ressurgir ce qui est interdit, qui est la violence, alors que la violence diminue partout dans le monde. Et il fait ressurgir ce qui ne pouvait être accepté que sur un mode esthétique, c'est-à-dire la cruauté. C'est là où se heurte la difficulté. Alors, inutile de vous dire que je partage avec vous votre opposition à cette industrie du spécialiste en terrorisme, qui marchait. Je disais à un moment, avant l'arrivée d'État islamique, qu'il y avait plus d'experts en terrorisme que de militants dans Al-Qaïda. Je pense que ce n'avait pas tort, en tout cas pour Al-Qaïda, dans son tronc central, de ce point de vue. Alors, l'État islamique, évidemment, est une autre dimension, beaucoup plus forte. Alors, ça pose toute une série d'énigmes. Je suis comme vous, parce que c'est indicible, nous sommes devant des énigmes. Et on en a plusieurs, parce que c'est des rencontres incongrues. Si vous prenez l'espace dans lequel se développe territorialement l'État islamique et Al-Qaïda, c'est-à-dire un espace qui va des territoires tribaux pakistanais jusqu'à l'Atlantique, vous avez en fait des zones tribales. Là, à chaque fois qu'il y a une accroche de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, vous êtes dans des tribus, dans un système tribal en décomposition, recomposition, surcomposition, retribalisation. Mais enfin, bon, partout où vous l'avez, que ce soit dans le Sahel, au Yémen, en Afghanistan, en Irak, vous avez automatiquement des tribus, ce qui m'a permis de créer un pseudo-proverbe baloutche qui était « Jihad needs tribes ». Mais en même temps, comment se fait-il qu'un phénomène politique et social qui se construit sur les espaces tribaux arrive à attirer les gens des banlieues, qui sont tous des tribus. C'est là, évidemment, où il y a cette rencontre incongrue entre des imaginaires et des sociétés en déplacement, mouvance, recomposées, je ne sais pas comment définir. Et là, ça reste cette énigme. Moi, je les avais appelés d'un côté donc, les gens des tribus, et de l'autre côté, à défaut d'autre chose, les brigadistes, puisque ça rappelait les brigades internationales des années 1930. Mais on pourrait rappeler que déjà au XIXe siècle, des jeunes Européens allaient se battre en Amérique latine du côté des Libertadores, sans parler de ceux qui sont allés se battre du côté des Philélènes, qui se sont allés se battre. C'est-à-dire que ce type de mouvement a toujours, enfin, toujours existe depuis deux siècles dans les différentes formes de modernité. Alors, l'avenir, personne ne peut le savoir. On a quand même l'impression que la quantité de souffrance infligée aux populations dans l'espace de l'État islamique, par l'État islamique lui-même, a quand même largement ruiné sa base sociale. Il ne s'agit pas seulement qu'ils ont été détruits par des milices venues d'autres camps, mais qu'ils ont détruit leur propre base sociale en maintenant une politique de terreur contre les tribus, contre les forces classiques, etc. Et ainsi de suite. C'est pour ça que je ne suis pas si craignant pour l'avenir en pensant que les gens disent ben, ils vont ressurgir sous une autre forme. Ils ont quand même mangé une partie de leur pain blanc. Où ils se trouvaient. Donc, alors par contre, évidemment, quand on est dans les fonctions de l'imaginaire, comme vous l'avez montré, là, c'est plus difficile à saisir et à comprendre. Parce que, encore une fois, d'un côté, ils utilisent le langage victimaire et en même temps, ils jouent sur la vengeance. Nous vous mettez des bombes parce que vous nous bombardez. Ce qui est vrai, qui est faux, parce que c'est toujours plus compliqué dans le réel. Mais celui qui se sacrifie a l'impression de se venger quelque part, mais d'un tort qui lui est imaginaire au sens où ça présuppose d'abord une identification à des victimes qui sont très loin et avec lesquelles il n'a pas eu de contact. Ce n'est pas la même chose avec un Palestinien qui se fait sauter sur des Israéliens parce que là, il est sur une force d'occupation, il est dans le concret, il est dans le réel. Là, on est totalement dans l'imaginaire, d'où le fait d'ailleurs que l'État islamique ne réintroduit sur les dimensions de l'imaginaire en politique. Ce qui, évidemment, nous désempare, parce que finalement, l'imaginaire pour nous, c'était pour des séries télévisées et pas autre chose. Mais j'ai trop parlé, si vous avez des réponses à mes remarques.
Merci. Non, je vous rejoins sur les trois dimensions de l'indicible. Je rajouterai l'invisible également, vous avez mentionné. Peut-être deux ou trois points de... pour ajouter là-dessus. Il y a en réalité un très grand parallèle entre Che Guevara et Ben Laden dans l'approche politique que Ben Laden a eue à la gestion de son mouvement, notamment, je dirais, la disparition programmée de Ben Laden, qui écrit tôt dans ses textes qu'il doit devenir... que son mouvement doit apprendre à se passer de lui. Donc, en fait, on a un mouvement dans lequel, en général, dans ces mouvements terroristes, il y a beaucoup d'ego et beaucoup de centralisation. Or, tout d'un coup, nous avons quelqu'un qui, en réalité, autocapacite ces franchises qui finissent par émerger. Alors, à un moment, c'est ACMI qui est la plus forte. À un moment, c'est ACPA, la péninsule arabique. Et puis, finalement, c'est l'État islamique, c'est Al-Qaïda en Irak, donc, qui rafle la mise par la suite. Sur la question de la relation avec ce qu'on appelle « the enabling environment », c'est-à-dire l'environnement capacitateur occupé à Mossoul et Raqqa par l'État islamique, évidemment, c'était une question de temps avant que cette armée de libération que l'État islamique a été pour certains dans cette ville, par rapport aux milices chiites, allait devenir une armée d'occupation, et de manière brutale. Ça, c'est, et on le voit. Troisième biais, c'est celui de l'ultra-violence. Et là, c'est très important de bien comprendre que cette ultra-violence qui est littéralement mise en scène dans les vidéos qu'on voit avec cette espèce de panoplie orange qui est mise, ce sont des références directes à ce qui s'est passé à Abu Ghraib. Il y a une forme de mimétisme pensé, voulu, et c'est ces effets d'aller-retour de cette violence et de cette contre-violence qui, je crois, sont à la fois consciemment et inconsciemment rejoués par l'État islamique. Inconsciemment, parce que je pense que plus il a mis en scène ceci, plus en réalité il a capacité cette population transnationale qui est venue. Et là, il y a un point important sur lequel je voudrais insister. L'État islamique ne pouvait plus être le même État islamique, levantin, irakien, syrien, libyen, saoudien ou autre, à partir du moment que plus de 30 000 personnes allaient venir littéralement de la Chine au Chili et qui allaient, par leur expérience in situ, transformer l'orientation. C'est un peu à nouveau ce qui s'est passé avec ces mouvements des années 70, dans lesquels il y a ces interpellations, vous mentionnez des interpellations intellectuelles, mais là on peut voir que la gestion, pourquoi telle priorité et pas celle-ci, et la nature hybride naissante de ceci va amener très rapidement la fin de l'État islamique, enfin la fin entre guillemets, la fin dans ce sens qu'elle vit une version accélérée de l'Al-Qaïda, et nous donne aujourd'hui ce nouveau moment de ceci. Pour ce qui est de l'impact sur la société occidentale, ce qui m'intéresse plus maintenant dans ce nouveau projet, même si en réalité je veux revenir aux sources, c'est en tout cas dans cette phase, c'est de voir cette espèce de postmodernité qui a vraiment pris son envol en 2016-2017 avec ces enfants perdus qui sont à la fois des révélateurs de ce malaise sociétal occidental. Je faisais référence à Michael Haneke, le travail artistique et c'est truffé de références cinématographiques et littéraires, parce que je pense qu'on n'a pas assez utilisé ça pour précisément comprendre notre histoire contemporaine. Le travail d'un Michael Haneke, par exemple, au lendemain de 2001, qui nous donne Le Temps du Loup, une espèce de malaise ambiant imprécis post-11 septembre, et quelques années plus tard, cacher une menace qui semble être un fait divers d'un couple bourgeois parisien, mais en réalité, ce sont les relents et le retour de l'histoire coloniale. Je crois qu'on est dans le centre du propos de ce qui va se passer avec l'État islamique et qui a commencé déjà.
Alors, je terminerai sur un point, puis je laisserai parole à la salle parce que je suis trop bavard. Je crois qu'aussi, il y a un phénomène qui me frappe depuis longtemps, qui est le phénomène de discordance d'État. Une grande partie du monde non-européen et non occidental vit encore dans un continuum avec l'histoire coloniale, soit sous forme de ressentiment, soit sous forme de revanche. Mais quand le président chinois, là, au plénum du parti, dit « on remet la Chine à sa place après un siècle d'abaissement », c'est la même chose que quand on dit « on veut faire un califat » ou autre chose. Alors qu'en même temps, on va passer aux questions ensuite. En même temps, je pense que s'il y a du post-colonial, il est en Occident au sens où s'il y a une douleur de la colonisation, de l'abandon des empires, elle s'est accompagnée non pas d'un oubli, mais d'un exotisme. Si vous prenez un discours quelconque, culturel, littéraire, je ne parle pas politique nécessairement sur l'époque coloniale, c'est dire ah finalement ils étaient drôles nos ancêtres avec leur chapeau et leur comportement, c'est-à-dire que le colonial, les Européens en ont fait deuil, ils ne le vivent maintenant que sous la forme de l'exotisme, alors qu'en phase 2 les gens le vivent comme encore existant. C'est une blessure, mais qui n'est pas fermée. Et c'est ce que j'ai appelé dans un papier il y a très longtemps déjà, la discordance d'État. Alors, avant de laisser la parole à la salle, qui le mérite quand même, je vous permets de vous offrir au nom du Collège de France la médaille du Collège. Merci bien. Très bien.